Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 178. Mon nom est Paul Landriot et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante.
Vas-y, là, il y a la toune, puis là, Paul, commence.
Hey, les amis, qu'est-ce qui se passe à Québec?
Québec, il y a eu le G7.
Ben non, mais dans le monde du cinéma, parce que là, à Montréal, souvent, on est comme, ah, il y a un cinéma qui ferme, il y a l'excentrique, ça va pas bien.
Ah, et oui!
Mine de rien, comme ça, à Québec, on se dit, tiens donc, l'administration du CLAF fait une étude de marché et va ouvrir une nouvelle salle de plusieurs... un nouveau cinéma de plusieurs salles à Loretteville.
Ouais, à Loretteville, ouais, c'est super cool. Hey, des bonnes nouvelles de salles qui ouvrent, c'est super.
Ouais, c'est Loretteville, je sais même pas c'est où.
C'est en banlieue de Québec, là.
Ouais. Ok, c'est bon.
C'est vraiment comme...
de Québec, là. Vous avez quand même longueur d'avance sur moi, là.
Ben oui, j'ai fait mon secondaire là-bas, une partie de mon secondaire là-bas, donc c'est assez drôle de voir qu'il va y avoir un cinéma là. Mais c'est cool, ils ont fait une étude de marché, le propriétaire du CLAP disait qu'en 2017, eux, ils ont eu une augmentation de comme 7% de leurs revenus. Donc c'est la preuve que ça va très bien, que la cinéphilie se porte bien à Québec, tu sais, malgré tout. Donc super cool pour les cinéphiles de la ville, là.
Ouais.
Sinon, il fait très chaud en ce moment, c'est très humide, on n'est pas encore techniquement l'été, mais c'est tout comme, et ce qui dit été dit le lancement de la saison des films en plein air.
Oui.
Donc, c'est de plus en plus gros, en fait, ce mouvement-là, il y a des dizaines d'organismes qui participent, donc il y a tout plein de sites web pour tout ça. Vous irez voir, ça vaut vraiment la peine d'aller voir toute la programmation. Toujours cool, ça, en fin de soirée, là, attraper un film gratuitement en plein air.
Souvent accompagné d'un court-métrage en plus, là.
Ouais, non, c'est vraiment une belle initiative. Moi, c'est le genre d'initiative que je trouve qu'il devrait y avoir plus souvent. Bon, évidemment, tu sais, comme quand c'est l'hiver, c'est peut-être pas l'idéal pour ça. Et bien sûr, plus que quelques semaines avant Fantasia, ça, on a très
oui.
Puis là, il a fallu que je coupe là, la section la semaine passée à cause de notre bug de Rémi, là. Si, je veux juste dire aux auditeurs...
notre bug de Rémi!
Si on se prend un beau pseudonyme, bug de Rémi, là.
Bug de Rémi. Mais c'est parce qu'en fait, c'est que ce que j'ai fait, c'est que toute la première partie du podcast, c'était pas juste Paul et moi, c'est qu'il y avait des interactions à trois. Puis vu qu'on n'avait pas les interactions de Rémi, ben il a comme fallu que je commence que je fasse du vrai montage puis que je chope autour. Ouais. Fait que par exemple, on parlait par exemple tu sais de Fantasia, le fait que j'étais sous le jury à Fantasia, puis que ben là moi j'étais tout excité de ça, puis là on a parlé de Fantasia tout le kit, puis là ben ça a tout été coupé. Fait que ça c'est du matériel que vous aurez jamais l'occasion d'entendre. Mais là, on peut en parler, Chris. Je suis juré à Fantasia, ça me fait full plaisir. Fait qu'on va avoir plein de shorts, puis ça va être excitant.
Ben oui, félicitations.
Pis toi, Rémi, de ton bord, Fantasia, là, ça s'en vient. Là.
Ben oui, ben là, mon boulot pré-Fantasia est pas mal en train de se terminer. Là. Il reste encore, c'est sûr, un peu de gestion par courriel, mais les programmations sont setées, les films acceptés ont été avisés. C'est ça, puis là, ça sort le 28, la programmation officielle, le nouveau site web de Fantasia aussi. Je sais pas si c'est un scoop, là, mais le site web de Fantasia va changer de couleur. Puis c'est ça, là, c'est vraiment excitant, là. Ça va être un 3 semaines intense comme d'habitude, avec le show cette année, le show qui était en ligne l'année passée, qui se retrouve à ma TV cette année. Donc, il va y avoir l'émission animée par Benoît Mercier, qui a aussi le podcast Les Mystérieux Étonnants, un podcast qui dure quand même depuis que le mot podcast n'existait pas, même pas encore. Puis c'est Benoît qui anime ça, qui fait les entrevues. Puis donc, tu sais, au quotidien, vous allez pouvoir suivre qu'est-ce qui se passe à Fantasia, puis vous allez pouvoir peut-être faire des choix éclairés pour vos séances de visionnement. Ou juste saliver de ce que vous avez manqué et de ce que vous allez devoir rattraper par la suite sur iTunes ou wherever you watch your movie.
Ouais.
D'ailleurs, moi, j'ai très, très hâte au film Under the Silver Lake. J'ai partagé aujourd'hui sur ma page Facebook là, l'affiche du film qui vient de sortir, très, très belle. Puis surtout que, tu sais, il y a des rumeurs, parce que le film était repoussé, donc il y a des rumeurs qu'il va avoir un remontage plus serré. Donc, c'est possiblement la dernière chance pour les Montréalais là, de pouvoir voir le film un peu dans la version longue, dans la version de Cannes.
Ouais, parce que les échos de Cannes étaient très... Mais tu sais, c'est sûr que Cannes, on en parle tout le temps. Hein. Faut en prendre puis en laisser. C'est parce que, tu sais, vu que c'est comme tous les meilleurs films au monde... C'est comme, limite, j'ai l'impression que ça blase les gens. C'est comme un film qui est un peu, peut-être en deçà des attentes, va comme, il va, il va, ça va prendre le feu va pogner là puis fait à voir là mais tu sais c'est commun je veux dire, on se rappellera aussi Inglourious Basterds là à Cannes les gens pas trop sûrs puis je pense qu'ils ont coupé une dizaine de minutes puis quand puis finalement le film il était super acclamé quand il est sorti commercialement fait tu sais sur Cannes puis surtout un film américain des fois c'est un peu dissonant là les échos fait que moi j'ai foi là je suis all in j'ai hâte de le voir à Fantasia.
Puis tu sais sur la scène locale là, je veux dire Fantasia pour moi c'est dans ma tête c'est comme le synonyme du coup d'envoi de la saison des festivals là, parce que puis en plus c'est le plus festif des festivals fait qu'il y a vraiment ce côté là de comme grande grosse fête du cinéma qui dure peut-être un peu trop longtemps mais tu sais ça fait partie du charme de l'expérience puis
on perd toutes les journées de soleil au profit d'être voir des bons films là, c'est correct là c'est un bon deal là.
Ouais sachant que tout le monde passe à peu près une heure et demie par jour dans la file dehors de l'immeuble on a quand même un peu de soleil là tu sais
avec une petite pointe de Altaïb là la petite Altaïb l'adrette en face, là. C'est parfait, ça. Ah, j'ai hâte.
Quand c'est la canicule, là, puis tu rentres 700 cinéphiles nerds, là, dans le hall, là, tu sais, il y a des petites hauteurs d'été, un peu, là, sinon, ben, les amis, on a vu plein de films dernièrement. Et je vais d'abord vous jaser d'un film que j'ai vu pour, en fait, la fête de ma copine, qui, comme vous le savez sans doute, est la plus grande fan de l'univers de Call Me By Your Name.
Ouais.
Donc, on s'est dit, on va se taper le précédent film de Luca Guadagnino.
Bigger Splash?
Ouais, Bigger Splash.
Ah ouais, je l'ai vu aussi, on peut en parler.
Ouais, ce cinéaste italien que, moi, honnêtement, je le connaissais pas avant Call Me By Your Name. Là, il y a la bande-annonce de Suspiria, son remake qui vient de sortir.
T'as pas vu I Am Love?
Non, c'est ça, j'avais rien vu de lui encore.
C'est super bon.
Ouais, c'est vraiment bon, ça.
Ouais, vraiment.
Puis c'est fou quand même, parce que, tu sais, Call Me By Your Name, c'est comme son cinquième long de fiction. Il a fait quelques documentaires également. Mais je trouve que, tu sais, c'est rapidement imposé, là, puis, tu sais, moi, rapidement, tu sais, Bigger Splash, moi, j'ai beaucoup aimé ça, même si j'ai plus de réserves que pour Call Me By Your Name,
qui était
quand même le numéro 1 de mon top 10 l'an dernier.
Ouais.
Mais, tu sais, rapidement, c'est un cinéaste, je pense, qui s'impose, tu sais, puis il y a vraiment une maîtrise formelle assez incroyable, un style rafraîchissant, puis beaucoup, beaucoup d'énergie dans ses films.
Ouais, il y a beaucoup d'énergie, mais il est capable d'être patient aussi. Ouais, c'est ça. C'est comme tantôt énergique, mais tantôt vraiment méticuleux puis patient. Hein. Je trouve qu'il y a comme une bonne balance. Hein.
Ouais, Suspiria, la bande-annonce est tellement alléchante. Là, c'est vraiment cool. Tu sais, qu'il a poussé l'esthétique à fond, mais pas le même genre d'esthétique que l'original. Ouais. Le scénario est tellement simple de l'original Suspiria. Tu peux juste prendre le contexte, puis après ça, tu pousses jusqu'où tu veux. Là, c'est nouveau traitement, mais c'est peut-être un peu comme... ça se peut peut-être se comparer au remake de Evil Dead, où ils sont allés dans une autre direction, mais que reste que tous les thèmes étaient là, puis la structure était là. Mais en tout cas, je suis très, très excité à voir ça.
Ouais, puis juste d'avoir un cinéaste qui a une patte, là, tu sais, uniquement une signature, tu sais, comme dans un monde où les films de studio se ressemblent de plus en plus, tu sais, puis c'est la dinéification de tous les films, là. Ça fait donc bien du bien d'avoir quelqu'un comme ça qui fait un remake de Suspiria. Tu sais, genre, jamais dans ma tête, je me disais, j'ai besoin d'un remake de Suspiria, j'ai hâte de voir ça, mais là, je suis comme vraiment excité.
Ouais.
Puis, c'est ça, puis je pense que ce qui fait de bien, justement, c'est que c'est quelqu'un d'extravagant dans son cinéma. C'est un cinéma très... un peu à la Xavier Dolan, à l'Appel droit à Modovar. C'est un cinéma avec des grandes performances, des grandes couleurs, des grands conflits, beaucoup d'humour aussi également, beaucoup de sensualité puis de vibration dans ses films. Mais je pense que par certains choix, il s'impose un peu comme des espèces de limites, ce qui fait que ça devient pas non plus trop lourd, chargé, agaçant. Puis comme par exemple dans Bigger Splash, tu sais, ben, le personnage principal, c'est genre une méga rockstar, un peu à la David Bowie, genre androgyne, interprété par Tilda Swinton, mais qui a comme une extinction de la voix, donc ça force son personnage à pratiquement pas parler du film.
C'est ça qui est en convalescence de sa voix. Mais tu sais, juste ça, je trouve que c'est une idée géniale, en fait. Parce
ben
que
oui, c'est ça.
C'est que t'as je pense, puis ils l'introduisent, là, c'est son background de rockstar, là, tout début de film, avec une économie de temps, mais une puissance évocatrice incroyable, tu sais, je pense qu'on la voit à une coupe de shot, là, quelque chose comme. Puis là, t'es comme, oh shit, ok, c'est ça le personnage. Puis ensuite, tu sais, on coupe, on est dans le vif du sujet, dans son espèce de genre maison de repos, en vacances, puis elle a plus de voix. Puis c'est tout ce que t'as besoin de comprendre du personnage. Il y a une aura de mystère, on comprend de où est-ce qu'elle vient, puis où est-ce qu'elle est, puis vraiment, moi, je trouve que c'est avec une économie de temps puis de moyens, là, t'as un personnage magnifique qui s'ouvre à toi. Puis c'est juste une fichue de bonne idée, tu sais, la rockstar, mais comme dépourvue de
de ce qui fait pas, d'elle.
Tu peux pas rocker, finalement, un peu. Ouais, genre, ouais. Quelle idée géniale. Ouais.
Ben oui, puis même si parfois le scénario peut sembler un peu trop simpliste, parce que c'est pas nécessairement des récits très compliqués, mais c'est dans la façon qui est fait, puis dans le raffinement de ces traitements que ça fait des films qui sont magnifiques. Puis honnêtement, j'espère que l'industrie du tourisme italien lui verse un peu des subventions, parce que avec ces films, t'as tellement le goût d'aller juste voyager là-bas, puis de te promener toi aussi, puis de te baigner au bord de ces paysages. Mm-hmm. Mais puis c'est ça, parce que tu sais, comme dans ce film-là, finalement, c'est ça, c'est la retraite, ben pas la retraite, mais plutôt la convalescence là, d'une rockstar et de son chum, qui sont visités par son ex à la rockstar, qui lui est ultra extravagant.
Ralph Fiennes.
Ouais, joué par Ralph Fiennes en possiblement son meilleur rôle en carrière, honnêtement.
C'est un de ses bons, ouais, ouais.
C'est
ouais.
Up there, puis il est incroyable dans ce film.
Ça, avec Bruges, c'est...
Oh, oui, non, parce qu'il en a fait des vraiment bons, là. Je veux dire, ouais, Schindler, ouais. Exist, In Bruges. C'est un acteur monstrueux, Ralph Fiennes, c'est vraiment, ouais, il est incroyable. Mais,
Voldemort, fucking Voldemort.
Ouais, ben écoute. mais c'est vrai, ça se défend, là, ton énoncé, même si ça a l'air très bold, là, dans ce film-là, il vole le show, là. Il arrive, puis je pense qu'en 5 secondes, lui aussi, il débarque en tornade, là.
Ouais. Non, c'est ça. Puis bon, ensuite, il y a comme un troisième acte que j'ai peut-être un peu moins apprécié.
Ouais, ouais.
Parce que c'est également, c'est une espèce une adaptation très, très libre là, d'un vieux film français, La Piscine, qui avait été également repris par François Ozon. Donc, il y a comme un peu la même trame narrative globale. Mais ouais, vraiment un très beau film, c'est disponible sur Netflix, donc aucune excuse. Puis peut-être, justement, si vous êtes un peu curieux de Suspiria, ben, peut-être voir ce film-là ou Call Me By Your Name. Je pense que ça va vous rassurer quant au potentiel de ce remake. Donc voilà, et parlant de films esthétiques très cool, Pascal, toi et moi, on a vu également Revenge.
Ah ouais, ouais, ben oui, c'est vrai, on va en parler vite de Coralie Farja. Je pense, comme ça,
on va dire son nom. Je sais pas exactement. Ouais. Mais oui, c'est ça. Donc, qui est donc un des... En fait, c'est drôle, hein, ce film-là, j'avais aucune idée ce que c'était. Je savais juste que c'était comme un des films qui faisait le buzz cette année dans pour les fans d'action, d'horreur, puis de cinéma de genre en général. C'est un film, qui avait joué au cinéma du Parc à minuit. Et c'est ça, je savais que c'était un film qui avait une réputation qui le précédait, mais je savais même pas en fait que c'est un film français, tu sais, j'avais vraiment comme aucune idée. Et puis, ouais, qu'est-ce que t'en as pensé de ce film-là, Pascal?
Ben déjà, c'est ça, c'est quoi la prémisse, tu sais, ouais. C'est une genre de maîtresse trophée d'un homme riche, mais tu sais, beau et riche et dans le vent, là, tu sais, qui se retrouve dans une villa, je pourrais pas dire c'est où.
Au milieu du désert, là.
Un genre de désert, ouais, c'est ça. Puis, ben c'est ça, une genre de retraite, là, lui, clairement, ben, il trompe sa femme, puis lui, tu sais, puis il dit que, je sais pas, il doit être en congrès d'affaires ou whatever, mais il est juste là avec sa jeune maîtresse jeune et jolie. Quand, tout à coup, deux autres hommes se pointent dans le décor, parce que c'était une genre de retrouvaille de chasse, là, les trois hommes étaient techniquement, c'est ça, en train d'aller à la chasse. Et, mais là... comment dire sans dire? Trois hommes, disons, mal intentionnés, riches et tout permis, et une jeune femme jeune et jolie dans un endroit où personne ne regarde, ben ça fait ce que ça fait, et ça vire en film de vengeance, là, carrément, parce que le film s'appelle Revenge.
C'est assez direct au point, là. On comprend assez vite. Que...
Ouais, on s'entend.
Je l'ai pas vu, puis l'image est là.
Ouais, c'est ça. Puis oui, effectivement, le film n'a pas peur d'être assez gore. Je pense que le film manque un peu d'humour, parce que c'est quand même vraiment un film... un peu, pour vrai.
Je pense que l'humour vient un peu dans le fait qu'il y a des affaires qui sont tellement grosses, il y a des ficelles qui n'ont pas de bon sens. Fait que je pense que rapidement, il faut que tu acceptes que c'est une espèce de film fantaisiste. C'est vraiment comme un exercice de style beaucoup plus qu'un scénario classique.
Oui, je suis d'accord. Puis aussi, il y a quelque chose qui m'a un peu agacé, puis qui est un petit peu, je pense, excusé, du fait que la réalisatrice est une dans le fond. Mais tu sais, la fille, elle est sexualisée, là, mais genre de A à Z, là. Tu sais, je veux dire, surtout dans la première moitié du film, là, c'est comme des gros plans sur ses fesses, là. Puis tu sais, comme tout le temps. Puis tu sais, au point où ça en devient vraiment... ça en devient malaisant, là. Pas que ça justifie absolument rien, là. Tu sais, je veux dire, tout est injustifiable dans ce film-là, puis c'est un film de vengeance. C'est juste que ça part énormément gros, pour. Ben, en fait, c'est juste gros tout le temps. C'est pas un film qui a aucune subtilité.
Mais est-ce que ça serait pas un commentaire. Mais tu sais, est-ce que ce serait pas justement un commentaire sur la façon dont les hommes perçoivent les femmes, tu sais, parce on pourrait justifier que, dans le fond, caméra dans ce film-là sert justement à une espèce de public, et lorsqu'elle va cesser d'être une espèce de trophée fétichisé, puis qu'elle va prendre, dans le fond, sa destinée à deux mains pour exercer sa vengeance, c'est comme également une vengeance sur le spectateur qui voyait en elle que... une belle actrice.
Je suis assez d'accord. C'est juste que ça va pas. Clairement. Puis quand je disais ça, puis on en a parlé, on l'a vu ensemble, le film. Là, clairement, c'était l'intention. C'est juste que c'est faux gros trait. Son évolution.
C'est rien d'autre que ça, finalement. T'sais.
C'est ça. Puis après ça, elle passe vraiment, comme c'est ça, d'un objet sexuel à genre la fille la plus badass de l'univers. C'est là où je veux dire que je pense qu'il faut pas bouder son plaisir. Il y a du gros fun noir dans le film. C'est un film de vengeance. C'est ça. C'est juste que dès qu'on l'analyse puis qu'on le décortique un petit peu plus sur une base un tant soit peu de psychologie ou d'évolution de personnage, ben, tu sais, on passera, là. Mais de toute façon, c'est pas le mandat du film nécessairement. Donc, je pense qu'il faut pas nécessairement le juger sur ce qu'il prétend pas être.
Vous me donnez le goût quand même,
Ben, c'est quand même cool, mais faut dire que le film aussi est pas mal trop long, tu sais. Honnêtement, c'est le genre de film là, qui aurait dû durer comme 80 minutes maximum. Là. Puis, tu sais, quand j'en parlais aussi, on en parlait ensemble, puis, tu sais, ça fait très comic book, là, tu sais, avec des gros plans fixes à la composition, tu sais, parfaite, puis, tu sais, tellement de plans de, justement, elle qui fait juste avancer avec un shotgun dans les mains, puis, ça fait un peu des plans qu'on a déjà vus ailleurs, puis, tu sais, c'est facile de comparer un film comme ça à, mettons, Laisser bronzer les cadavres. Qui est dans le désert aussi, qui a un peu une fusillade, qui est un petit peu à peu près, tu sais, vaguement la même prémisse, là, plus ou moins. Mais là où Laisser bronzer les cadavres a des fourmis carrément d'idées de visuels, de montage, de références, quitte à, tu sais, en saouler plusieurs, là, tu sais, c'est vraiment pas un film qui est acclamé par tous. Revanche, en comparaison, ben, c'est assez conventionnel, tu sais. Je veux dire, ça look bien, puis c'est à peu près tout. Là,
mais ça look bien, mais je trouve qu'il y a vraiment une esthétique du film de désert. Puis là, je sais que c'est quasiment un running gag rendu là, parce qu'on parle tout le temps de Mad Max Fury Road. Là. Mais genre, mais tu sais, l'espèce de. Tu sais, le clash de couleurs entre les couleurs, tu sais, sable, terre, très chaude. Puis tu sais, les visages un peu, tu sais, le basané du désert, un peu, cette espèce de soleil-là. Mais en même temps, le ciel, tu sais, vire comme. Turquoise, tu sais, c'est un genre de bleu turquoise qui devient, tu sais, hyper saturé, qui balance un peu l'image là, de façon avec un contraste de couleurs vraiment vif et fort. C'est encore un peu un film dans cette lignée-là. Quand tu regardes le poster, je pense que ça a l'air encore plus extrême que c'est. J'ai quasiment l'impression qu'il aurait quasiment pu aller plus loin. Parce que finalement, quand tu regardes le film, effectivement, Paul, on dirait que c'est peut-être allé à demi-mesure là-dedans, alors qu'on dirait que ça s'est marketé comme un film justement qui est beaucoup plus c'est beaucoup plus fou à ce niveau-là. Mais mais bon, puis tu sais, puis la mise en scène, est-ce qu'on peut parler vraiment d'une patte de réalisation? Je pense que ce que la réalisatrice fait est franchement bien. Il y a des bonnes idées de direction artistique aussi, vraiment beaucoup, comme par exemple dans la villa qui est très fenestrée, il y a juste comme deux fenêtres colorées, une rose puis une bleue, bon, une opposition des sexes symboliquement, aux couleurs symboliques assez assumées, mais c'est que ça utilise un jeu de couleurs vraiment intéressant, comme le soleil qui passe à travers ces vitres-là, qu'est-ce que ça dit au niveau symbolique, bon, il y a plusieurs bonnes idées. Comme ça, de DA à droite à gauche. Mais c'est ça. T'sais, finalement, c'est ça. C'est du fun de minuit qui, d'une façon étrange, a été élevé. T'sais, je regarde, il y a vraiment des bonnes critiques partout dans le monde. Fait que là, il est peut-être sur le radar de des films qui ne cherchaient pas nécessairement juste un film de vengeance, exploitation de minuit.
Est-ce que ce serait pas son exotisme un peu? Comme, est-ce que le film... ne serait-ce que parce que c'est une production européenne, là, soudainement, il y a quand même un petit côté, là, ah, c'est cool d'écouter ça. C'est comme, parce que je trouve que, contrairement, mettons, à un film comme, mettons, Grave, un autre film récent de genre, réalisé par une femme, d'ailleurs, ben, Grave, au moins, je trouvais vraiment qu'il y avait, c'était beaucoup plus que la langue ou l'esthétique, là, qui était différent, je trouve vraiment que...
Ah oui, c'est tout dans ce film-là, absolument. Oui.
Donc, je trouve juste que Revanche... et pas particulièrement original, tu sais. Mais ensuite, oui, ça s'écoute tout à fait, puis pas pour les âmes sensibles, là, évidemment, là, mais tu sais, pour ceux qui... De toute façon, ceux qui ont ce film-là sur leur radar, tu sais, j'imagine qu'ils savent un peu à quoi s'attendre.
Yes, sir.
Sinon, Pascal Plante.
Le gros moment... on va là, là. On s'en va là-dedans, là.
Le gros moment qu'on attend tous.
Oh, j'ai hâte! J'ai hâte de t'entendre!
Parlant de film original à l'esthétique particulièrement léchée.
Ouais.
Le nouveau...
ouais.
Le nouveau chef-d'œuvre de Denis Arcand, La chute de l'Empire américain.
Écoute,
la suite. La suite de... Ben, la suite. Il a décidé, ou du moins, est-ce que c'est lui, mais en apposant...
Est-ce que c'est Denis Robert, hein? On sait pas, ça, ouais.
Ben, on le saura peut-être jamais non plus, mais en associant comme ça le titre de son nouveau film à son plus grand succès critique et commercial, les Invasions barbares, et puis le déclin de l'Empire américain, tout ça, cette espèce de trilogie-là. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que ça fait peut-être mettre la barre trop haute pour ce dernier film?
Écoute, c'est même pas
est-ce
une
qu'il y a un lien, en fait?
Ouais, c'est même pas une question de barre haute ou date. Ben, en fait, c'est que c'est carrément mensonger. Le film n'a rien à voir.
Donc, bon, on retrouve pas les mêmes personnages.
Puis... Je suis sûr qu'on pourrait me reprendre puis qu'on pourrait prendre certaines thématiques... Mais là où, par exemple, t'sais, bon, on se rappellera du déclin de l'Empire américain comme d'un film t'sais, très bavard, finalement, t'sais, c'est les idées qui sont véhiculées dans ce film-là qui sont quand même assez t'sais, challenging. Là, je veux dire, il y a quand même beaucoup de matières qui sont sur la table dans un film comme le déclin de l'Empire américain. Puis dans les invasions barbares, c'était plus visuel, t'sais, déjà d'être dans l'hôpital. T'sais, on se rappelle quand même, mettons, des corridors d'hôpitaux tellement engorgés que, t'sais, que ça déborde justement dans les couloirs.
Ouais, le
côté et tout
surréaliste qu'il a réutilisé même dans L'Âge des Ténèbres, là, qui est ultra surréaliste là, dans son environnement. Là.
Mais c'est ça, puis même L'Âge des Ténèbres, que je défends bien parce que je veux quand même, avant de plonger dans la chute de l'Empire américain, je vais peut-être vous dire un peu de où est-ce que je viens avec Denis Arcand quand même, parce que faut respecter, faut à tout le moins le respecter, je veux dire. J'ai vu cette année aussi la maudite galette, là, son premier long-métrage de fiction, qui était franchement imparfait, mais t'sais, très, très, très audacieux. Il y a quelque chose de rebelle chez Denis Arcand. T'sais, c'est un intellectuel, oui, puis je pense qu'aujourd'hui, on le voit toujours comme un intellectuel, parce que ses films les plus connus vont vraiment dans ce penchant-là. T'sais, effectivement, Le déclin de l'Empire américain, c'est le langage qu'il connaît avec des acteurs qui parlent à travers lui des énoncés qu'il connaît ou qu'il fascine. Ou, c'est ça, c'est plutôt cérébral et c'est correct, mais je veux dire, on est au coton, son documentaire fleuve sur l'industrie du coton puis sur l'exploitation ouvrière, c'est un documentaire de terrain, c'est quelqu'un qui vient d'un acte de protestation, c'est quelqu'un de politisé, c'est quelqu'un qui a quand même pas eu peur à une certaine époque de... sortir de la bourgeoisie qu'il connaît bien, et puis il s'en défend, il le dit lui-même, il la connaît bien, la bourgeoisie, donc il parle de ça. Mais il allait quand même, il y avait une volonté de rencontrer les gens qui s'est perdu au point de pondre le règne de la beauté en 2014, ben, je l'ai souvent dit, là, moi je trouve que c'est un film qui est tellement profondément mauvais que c'est comme à lui tout seul, c'est quasiment comme si il avait
saboté sa carrière.
Ouais, c'est ça, c'est comme si tout à coup Denis Arcand il s'en allait aux oubliettes avec un seul film. Je veux dire, c'est rare là, un cinéaste qui a autant une carrière légitime, un monstre sacré du cinéma québécois qui en un traître film vire complètement la marée contre lui. Il faut le faire, il faut que son film, puis L'Âge des Ténèbres, encore une fois je le défendais parce que L'Âge des Ténèbres, au-delà des belles paroles, moi, je me rappelle quasiment plus de la séquence, tu sais, genre médiévale ou, tu sais, de Marc Labrèche en plein milieu de la rue qui se retourne vers sa femme. Tu sais, je trouvais qu'il y avait encore du flair visuel, Denis Arcand. Il est complètement incapable de faire ça.
Tu as corrigé, sa carrière a pris le bord, pas au Règne de la beauté, mais dans les 5 dernières minutes de L'Âge des Ténèbres. Je sais pas si tu sais, mais il y a une séquence épilogue là, qui est épouvantable, puis qu'on dirait qu'il essaie de juste comme... racheter ça, tu sais, de s'excuser d'avoir été trop intense dans ses propos. Parce que la scène de fin, justement, où il se retourne et regarde sa femme, pour bon, ceux qui ont vu le film savent de quoi je parle.
Oui,
le film devrait finir là. Tu sais, le générique part après, puis on est content. Puis après, il y a genre un épilogue de 5 minutes là, où il essaie, on dirait qu'il essaie de s'excuser pour faire non, mais je suis pas si punk que ça. Tu sais, je suis toute propre, là, guys, là, ça va bien aller. Là.
ouais. Ben écoute, fait que ce que je veux dire par là, c'est, parce que la question initiale de Paul, là j'ai passé par les quatre chemins, là, c'est là, c'est la chute de l'Empire américain. Donc, d'office, il l'associe aux deux autres films.
Qui s'appelait ça, comment originalement, Pascal?
Le Triomphe de l'argent.
Le Triomphe de l'argent
a été un titre franchement mieux, ou du moins franchement plus adapté au film. Parce qu'à un moment donné, faut pas vendre un mets 4 étoiles aux Européens, puis finalement te faire servir du Oka livraison rapide, là. Puis c'est un peu ça. Pis, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à autant trouver ça divertissant. Je vais le dire d'entrée de jeu. Le film est à l'image de son poster. Donc son poster, ok.
C'est comme un safari là, de 1999. Là.
Ben oui. Oui, définitivement. Mais tu sais, avec la Statue de la Liberté, l'argent qui brûle, le Uzi dans le dos, tu sais, tout est là dans le fond. Tu comprends? Sexe, drogue, rock'n'roll, on passe à la go. Là. Ben. La chute de l'Empire américain, c'est étrangement ça, en fait. Le film dure 2h10, hein, puis waouh, je me suis comme... il est rythmé, il y a vraiment... Il y a tellement de soubresauts, abracadabresques. J'allais dire sans queue ni tête, je pense pas. Je pense que le scénario, il est même pas si tant pire, au fait. Mais je me surprenais vraiment pas à embarquer dans une course de char, mettons, là, tu sais, où... Parce que le film est un peu comme ça. Et ça, du moins, au niveau du ton, ça m'a un peu pris par surprise, mais dans le bon sens du terme, quasiment.
Fait qu'on dirait qu'il y a peut-être un peu comme une espèce de réaction par rapport au Règne de la Beauté.
Ah, moi, je pense que le film est complètement en réaction par rapport au Règne de la Beauté. Vraiment, vraiment, vraiment. Mm-hmm. Maintenant, ça excuse pas que le film a un peu les mêmes défauts par moment, puis ça, je pense que c'est des mauvais plis que rendu là dans sa carrière, je pense pas que Denis Arcand va être capable de s'en départir. C'est un film qui s'écoute parler. Ça, c'est évident. Là, dans ce film-là, c'est tout plein de théories, soit par le personnage d'Alexandre Landry, qui est un doctorant en philosophie, puis là, tu sais, dès qu'il peut plugger des principes kantiens, puis Aristote, puis Nietzsche, puis bon, on en parle, puis Sartre, puis toutes ces références-là, ben il le fait. Mais au moins, il le fait avec humour. Puis Alexandre Landry est un très bon acteur, au fait. Donc,
c'est qui ça? Il a joué dans quoi aussi?
Alexandre Landry, ben, c'est lui qui jouait notamment dans Gabriel, là, qui était extrêmement bon dans Gabriel. Là. T'sais, Gabriel, moi, c'est un film que je pense qu'on en avait déjà parlé. Je pense que ça nous avait pas nécessairement très, très plu au podcast, nécessairement, mais Alexandre Landry, quand même, il est sans faute dans ce film-là. Il a joué dans quoi d'autre aussi, Alexandre Landry?
Bonne question.
Mais bref, il est capable, c'est parce qu'il porte. C'est un intellectuel qui en devient quasiment inapte socialement, mais il le fait avec une certaine dose de d'autodérision, puis de... Ouais, tu sais, là où dans le Règne de la Beauté, là, c'est lourd, puis c'est grinçant, là, quand ils sont tous là à boire du vin dans leur maison d'architecte, puis de parler des grands principes de la vie, puis de philosophie, puis là, t'as juste envie de regarder ailleurs tellement, tu sais, c'est une conversation que dans la vie, t'aurais envie de creuser un trou puis de déguerpir. Ben là, au moins, le personnage qui incarne un petit peu ces idéaux-là, il a de l'autodérision. Puis, il y a d'autres personnages qui le font sentir socialement inadapté. Puis, finalement, il y a beaucoup d'humour dans le film. Et ça aussi, c'est une autre surprise. Donc, comme tu disais, Safari, Rémi, ben Safari, c'est une bonne comparaison, en fait. 2h10, qu'est-ce qui se passe dans le film de l'Empire américain? Ben, il se passe bien des affaires. Le personnage d'Alexandre Landry, c'est un docteur en philosophie, mais qui est quand même livreur là, pour une compagnie de livraison, whatever. Et se retrouve témoin d'une scène de crime impliquant des bandits là, de toutes sortes de gangs et par un hasard de circonstances, se ramasse avec les sacs d'argent. Et là, sait pas quoi en faire, et se retrouve de fil en aiguille à s'allier avec le personnage joué par Marie-Pierre Morin, qui joue la prostituée la plus chère de Montréal. C'est comme ça qu'il l'appelle. Et un ancien
Marie-Pierre Morin ou son personnage?
Ben,
oh!
Non, son personnage. Rémi.
C'est une blague. Hey, ben, on coupe quoi ça?
L'éléphant dans la pièce, elle est bonne dans Marie-Pierre Morin, ça passe très bien dans Marie-Pierre Morin. Ouais, on s'en reparle. Mais c'est ça, et il va aussi s'allier avec Rémi Girard, qui aussi est une bonne surprise, parce qu'il aussi a de l'autodérision dans ce film-là. Hein. Moi, je l'ai toujours dit, Rémi Girard, je suis plus capable en drame, mais je trouve qu'en comédie, il en a encore un peu dans le ventre. Et là, ça fonctionnait étrangement. Rémi Girard qui justement joue un ancien motard qui sort de prison, mais puis lui c'était comme un, il l'appelait The Brain là, c'était comme un expert de blanchiment d'argent tout ça. Fait que là Alexandre Landry dans un deux sexes machina bien assumé là, il voit à la télé que que le personnage de Rémi Girard est remis en liberté, puis là il l'attend à la sortie de la prison pour l'impliquer. En tout cas, vous verrez là, c'est une des multiples échappées abracadabresques et des détours du film. Et là, se retrouvent donc les trois dans une histoire de « OK, il faut qu'on se débarrasse de l'argent ». Ça va impliquer une pléiade de personnages, parce que la moitié du bottin IDEA se retrouve dans le film. Bon, maintenant, je vous ai à peu près parlé de tout ce qui fonctionne dans le film, c'est-à-dire le trio de tête. Puis c'est déjà bon, parce qu'on navigue avec eux dans l'histoire abracadabresque. Ce qui fonctionne pas maintenant, et là, il y en a dans plusieurs rayons, à commencer par les policiers, incarné par Maxime Roy et Louis Morissette, qui en viennent quasiment à jouer un duo comique. Mais là, en plus, Maxime Roy, il y a comme des sous-textes là, de séduction vraiment mal placés, puis vraiment réducteurs. Là. C'est vraiment un rôle... c'est vraiment un pauvre rôle. Là. Parce que pauvre actrice, pauvre rôle. C'est vraiment un... J'en dis pas plus, vous verrez le film. Puis Louis Morissette, pas crédible pour deux scènes. Puis là, il y a des démons. Puis là, à travers ça, c'est la parade des caméos. Mon Dieu, Claude Legault se pointe à Mané pour faire se pointe pendant une scène. Puis il y a tout aussi le sous-texte de des sans-abri. Parce que le personnage d'Alexandre Landry est un personnage qui a le bon cœur et fait du bénévolat avec des sans-abri, tout ça. Puis là, éventuellement, c'est ça. Qu'est-ce qu'il va faire quand il va avoir tout l'argent? Ben, vous pouvez un peu le deviner. Mais là, il arrive dans un refuge de sans-abri. Puis là, c'est comme Benoît Brière, tu sais, qui salisse un peu pour jouer un sans-abri, puis Gaston Lepage qui salisse un peu pour jouer un sans-abri. T'sais, c'est comme, ça sonne faux, là, ça sent mauvais, tu sais, puis c'est parce
mais,
que...
Mais moi, c'est ça ouais. qui me chicote, Pascal, puis juste te couper un instant, mais, ouais. tu sais, n'ayant pas vu le film, OK, ce qui j'ai quasiment comme moralement, en ce moment, ce film-là mérite, parce que c'est à peu près l'équivalent québécois d'un film de studio Marvel, genre ici, ou d'une espèce de grosse production où on essaie juste de vendre surtout sauf le fait que le film soit bon, tu sais. Ouais. Tu sais, de faire une conférence de presse pour annoncer son casting il y a plusieurs mois, tu sais. Ouais. Je veux dire, à quoi bon? Puis est-ce que ça fait pas un peu comme genre on essaie de remplir toutes les coches de c'est qui les vedettes les plus appréciées du public québécois, puis OK, on a besoin d'un moment avec tel humoriste parce que elle est connue, puis elle a joué là, dans telle télé-réalité, offrons-lui un rôle, ça va ramener les jeunes, tu sais. Il y a quelque chose de profondément comme calculateur, je trouve, dans la production du film. Et évidemment, je me prononce pas sur sa qualité parce que je l'ai pas vu. Mais tu sais, ça, pour vrai, je pense que c'est pas quelque chose qu'on était habitué au Québec. Et puis je pense que si on se repose tellement là-dessus, c'est peut-être parce qu'il y a Anguille sous roche. Puis tu sais, j'espère que ça deviendra pas une espèce de... je souhaite que le film se plante au box-office, ne serait-ce que pour qu'on embarque pas dans une espèce de roue comme ça, où de plus en plus, on va mettre l'accent sur qui est casté. Puis même, vous me direz, c'est déjà un peu le cas quand même pour plusieurs films, mais il me semble que ce film-là en particulier, il y a vraiment de quoi de cynique qui se joue dans la production.
C'est toi qui l'avais dit à un moment donné, il faut se méfier des films où il y a toutes les acteurs sur le poster.
Là,
c'est pas le cas du poster. Là, le poster, ça pourrait être un podcast à lui tout seul. mais tu comprends un peu ce que je veux dire? Puis c'est toi-même qui l'avais un peu mis... French Immersion, mettons.
Mais moi, je me demande si c'est une faute de réalisateur, faute de producteur.
C'est ça qu'on se demande.
Ou si la faute, c'est que Denis Arcand, c'est un réalisateur de base, mais qui est trop devenu producteur, puis a trop la production en tête. C'est tellement battu pour faire ses films que là, il est rendu formaté à rentrer dans ces cases-là s'il veut au moins produire son film, tu sais.
En même temps, ça fait longtemps qu'il y a des castings impressionnants, mais tu sais, j'ai juste l'impression qu'à l'époque... c'était peut-être des acteurs vers qui se tournaient parce qu'ils avaient envie de travailler avec eux. J'ai l'impression que peut-être qu'il est obligé de travailler avec eux. Peut-être que
l'échec... Denis Arcand, il est là depuis les années 70. Fait qu'il a grand... t'sais, c'est ses amis, ces acteurs-là. T'sais, les acteurs
qui maintenant... Marie-Pierre Morin, c'est pas son ami. Puis Alexandre Landry, c'est pas son ami. Là,
non, je sais, mais le choix de Marie-Pierre Morin, tant qu'à être dans le vif du sujet, s'il y a une affaire au niveau du casting que moi, je défendrais toujours, là, parce qu'on n'arrête pas d'avoir la même cassette, qu'on n'est pas assez audacieux au niveau du casting québécois. Puis là, tu me diras, est-ce que c'est de l'audace ou de l'opportunité? Bon, la ligne est mince, puis je t'entends, mais je pense qu'elle est attendue avec une brique puis un fanal, puis qu'au moment où elle sera pas bonne, ou au moment là, qu'elle va dire une ligne fausse, elle va se faire ramasser comme du poisson pourri. Ben, dans ce film-là, je te jure, c'est un moindre mal. Elle s'en sort vraiment mieux que bien d'autres acteurs qui ont, sur papier, qui sont beaucoup plus légitimes. Tu sais, qui, tu sais, pour moi, quand Éric Bruneau joue un policier blasé, là, c'est quasiment ça aussi un genre de pseudo-hommage à, genre, à de la télé, le Québec. Ben, c'est dans quoi qu'il joue, lui? C'est dans Mensonge, là, mais tu sais, c'est comme quasiment le même rôle. En tout cas, il y a plein d'affaires comme ça de casting qui feel opportuniste. Ben, elle, honnêtement, j'ai quasiment tendance à le défendre. J'ai quasiment tendance à le défendre parce que je me suis posé la question, très honnêtement, qui l'aurait joué mieux, puis j'ai eu beaucoup de misère à trouver. Fait que, ne serait-ce que pour ça, qui vient avec cette aura-là, parce qu'il joue sur son image, clairement, tu sais, d'une façon métatextuelle, un peu comme quand Christian Bégin est casté dans le film de Robert Morin, tu sais. Mais ça, j'ai trouvé que c'était loin d'être une des plus grosses fautes de goût au niveau du casting de ce film-là. Il y a vraiment beaucoup d'autres fautes de goût, puis je vais y venir, là. Mais à commencer, comme je disais, par les itinérants, parce que ça, c'est un thème du film. Puis le film, tu parlais de l'épilogue de L'Âge des Ténèbres, je ne parlerai pas de l'épilogue de ce film-là, mais c'est vraiment lamentable. C'est vraiment, vraiment, vraiment lamentable. Ça mélange un peu du documentaire. Mettons que c'est à peu près la seule chose que je vais dire, là. Mais tout le long du film, t'as vendu les itinérants par des acteurs comme qui font des pubs de Belle. Tu sais, c'est comme, non, là, ça marche pas. Puis ça essaie de finir sur une note qui est tellement faunée, ça essaie de nous tirer une corde sensible qui est tellement fausse puis qui est tellement pas en concordance avec tout ce qui vient de m'être présenté pendant 2h10 que ça me fait un petit peu vomir dans ma bouche, pour vrai, là. Mais bon.
Sinon, au niveau de... Ben, tu sais, parce que Denis Arcand aussi, ça a toujours été un cinéaste très critique, là, tu sais, dans ses films, il soulève un peu... il essaie un peu de lever le voile sur ce qui va pas bien dans notre société. Il l'a parfois fait avec brio. C'est un de nos grands cinéastes. Un film comme Réjeanne Padovani, des trucs comme ça, c'est des films qui ont marqué notre cinématographie. Dans Le règne de la beauté, entre autres, moi, ce que je reprochais, c'était ça, c'est une écriture qui est complètement déphasée puis qui fait juste pointer. Il fait juste pointer ah, la violence est mal, ah, la superficialité c'est mal. Tu sais, comme qu'il n'y a plus aucune finesse. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce film-là qui ressemble à ça? Est-ce qu'il y a une finesse de la critique? Est-ce que c'est des observations qui sont précises ou c'est encore des espèces de généralité que tu sais, n'importe qui peut énoncer?
Ben, la seule finesse que je vois, c'est vraiment beaucoup par le personnage. Moi, je trouve que le personnage d'Alexandre Landry est bien écrit. Puis, tu sais, comme je disais, un peu tout le double rapport avec l'intellectuel qui en devient quasiment un mésadapté social. Ça, je trouve que là, il y a quelque chose à dire. C'est comme si, à travers ce personnage, un peu comme, quand, comme dans les bons films de Woody Allen récents, il y a certains personnages jeunes qui vont quand même être capables de traduire des névroses de son auteur d'une certaine façon. Puis j'ai comme un petit peu l'impression qu'Alexandre Landry représente un petit peu l'alter ego là, jeune et névrosé et millénial là, de Denis Arcand. Puis ça passe bien. Ça, c'est à peu près la seule affaire qui passe bien. Sinon, j'ai l'impression qu'il a fait des recherches, clairement, sur l'argent, puis... Les paradis fiscaux, puis le gouvernement, puis...
c'est assez spécial, comme... Il a fait de la recherche sur l'argent, là.
Mais tu sais, je vais...
J'imagine tellement Denis Arcand devant sa page Google, qui pianote à un doigt, là, puis qui est genre, l'argent, c'est le mal, point d'interrogation.
Mais tu sais, je vais te donner un exemple, OK? Tu sais, Pierre Curzi, c'est son personnage, il incarne un expert, tu sais, de l'évasion fiscale. Puis là, il y a une scène où il fait une transaction louche avec de l'argent. Et puis là, il y a deux laptops devant lui. Bon, déjà, clairement, qui a deux laptops devant lui? Mais bon, ça, c'est juste parce que c'est cool, I guess. Puis là, il parle à tout plein de banques de partout dans le monde qui va faire transiter son argent sale, tu sais. Puis là, tu vois sur l'autre écran d'ordi, genre, comme des espèces de lumières qui flashent avec des schémas de genre, là, je parle à, mettons, quelqu'un à Londres. Puis là, t'as comme l'autre laptop avec genre des images de Londres, là, puis des bip-bip. Là, tu sais, on dirait genre un jeu vidéo cheap. On dirait que tu joues à Pandémie, là, ou je sais pas quel jeu de société, là. Puis là, t'es comme, tu sais, vois-tu, c'est là où il y a un peu des fautes de goût, tu sais. Puis là, il est comme, mettons, il va dire à son banquier de Zurich, mon client désire demeurer anonyme. Puis là, tu sais, il y a tout le temps la petite réplique de trop. Ah oui, nous voyons ça très souvent. Mais tu sais, c'est comme, tu sais, qui se veut clever, mais qui est tellement pas clever du simple fait qu'elle est dite. Tu sais, c'est comme, quand je disais ça s'écoute parler, c'est vraiment ça. Il y a de la matière en dessous. Sauf que, c'est trop exposé, c'est trop dans ta face. Moi, toutes les fois que je me suis surpris à être stimulé intellectuellement par le propos du film, Parce qu'il y a, matière, il y a de la matière. Je veux dire, on parle de finances, on parle de paradis fiscaux. Je veux dire, bordel, c'est quelque chose, c'est une conversation qu'on doit avoir.
À moins que ce soit un pastiche, parce que t'as l'air de dire aussi que c'est très divertissant. Fait qu'est-ce que c'est pas voulu un peu ce ton, tu sais, un peu pince sans rire, qu'on avait un peu plus, puis.
Ce le serait si. J'ai de la difficulté à me l'expliquer, mais comme je l'ai dit tantôt, c'est que ça s'écoute parler, ça se trouve clever. Puis, j'ai pas un exemple concret à vous donner, mais quand vous voyez le film, je pense que vous allez tout de suite comprendre. Il y a quelque chose dans le ton, tu sais, où un personnage qui dit « Ah, scandale sexuel, c'est vrai, on se remettra plus jamais de ça aujourd'hui. » Tu sais, puis c'est comme ça essaie d'être trendy, « Ah, un juge féministe. » Tu sais, c'est comme « Ah, ok, tu sais, parce que le gars, il a perdu la je sais pas, sa pension alimentaire, ou il faut qu'il paye une grosse pension alimentaire à sa femme, tu sais. Puis c'est ça, ça fait mon oncle, là, qui est sur Facebook, là, puis qui se trouve woke, là. Mais
c'est t'as tellement c'est sorti dans les meilleures métaphores depuis le début du podcast.
C'est un peu
wow.
Mais il y a matière, puis vraiment, je m'attendais jamais à dire ça, mais c'est franchement divertissant. Donc je peux quand même pas le déconseiller à toi à complètement. Mais la finale pourrit le film. Ça essaie de retomber sur ses pieds d'une façon profonde, puis ça le fait d'une façon tellement disgracieuse, puis tellement ça exploite tellement son sujet d'une façon lamentarde, là, que j'aurais vraiment été tenté d'être plus enthousiaste que je le suis, mais ça tombe tellement sur une note pourrite que je suis comme non, fuck that. Fait que à l'image de son poster.
Bon, voyez-le. Mais
au gala cinéma québécois, là, je peux te dire que j'ai trouvé la fin du discours de André Fortier cringy quand il a fini en faisant Denis Arcand, c'est notre plus grand. Merci tout le monde. Comme what the fuck? Pourquoi ça se passe, ça?
Mais ça se défend. À une certaine époque, ça se défendait. Puis
ben, à une certaine époque, c'est ça.
Mais André Fortier, il est un contemporain.
Il vient d'une certaine époque.
Arcand, hein. Écoute, tu sais. Est-ce qu'il est toujours pertinent? Ce film-là nous montre. Il l'est. C'est un homme intelligent, mais il est plus pertinent quand il rit des intellectuels puis quand il se prend pas trop au sérieux que quand il essaie de dropper des truth bombs là, tout le long du film. Ça devient lourd, tu sais. Puis c'est ça. Fait que, ouais, écoute, je me suis beaucoup trop épilogué sur la chute de l'Empire américain.
Non, c'est parfait. On avait besoin.
Mais le film dure 2h10. Hein,
ça a eu l'air de faire du bien, Pascal.
Ouais. Ouais. Mais le petit trio, il est le fun, là. Rémi Girard, il est le fun. Marie-Pierre Morin, ça passe encore. Puis Alexandre Landry, c'est l'étoile du match. Fait que, regarde, ne serait-ce que pour ça, hein.
Fait que 3 sur 40, c'est pas pire.
Ben, écoute.
Sinon, les gars, deux nouvelles aussi, deux micro-nouvelles de cinéma que je vais souligner, que j'ai oublié de souligner tantôt. La revue 24 images fait peau neuve, vraiment un tout gros changement dans l'histoire de la revue. Va passer de 64 pages à 180. Et passe d'un format magazine à une espèce de hybride entre le livre et le magazine.
Je pensais que t'allais dire 24 images fait peau neuve, il n'y aura plus de format papier, ça va être juste sur Internet. Tu sais, comme il y a comme tous les journaux, là.
Et non, 24 images
persistent. My God, c'est cool, signe.
Ça. Ouais. Puis c'est ça va devenir un objet un peu plus. Je pense qu'ils veulent en faire de quoi de plus précieux puis plus intemporel aussi. Et donc, il va y avoir 4 numéros au lieu de 5 par année. Donc, très hâte de voir ça. Ça commence dès le prochain numéro qui porte sur l'année 1968.
Ouais, mai 68, là. Ouais.
Ouais, donc, j'ai bien hâte de voir ça. Et également, un de mes podcasts préférés tire sa révérence. C'est toujours un peu, ça me fait toujours un peu de quoi quand il y a quelque chose que j'adore, qui est gratuit, qui s'en va. mais tu sais, honnêtement, je pense que c'est un podcast qu'on peut même écouter avec le recul. Ça s'appelle Film Spotting SVU. C'est un podcast américain qui était spécialisé dans le streaming, en fait. Donc, je trouvais que c'était vraiment cool comme idée. Okay. Donc, voilà, le prochain épisode sera le dernier. Je pense aussi que les deux animateurs sont très, très occupés. Ils ont beaucoup, beaucoup de projets. C'est Alison Wilmore et Matt Singer. Matt Singer étant le rédacteur en chef du site screencrush.com. Donc, je pense que c'est juste une question de... Ils ont trop de choses à faire et ils n'ont plus le temps. Donc, il y avait ça. Et Rémi Fréchette.
Hey, peux-tu juste rajouter une dernière affaire sur la chute de l'Empire américain? Je suis désolé. Une dernière affaire, peux-tu?
Oui, vas-y.
Le film commence sur un logo de la Delitech, là, tu sais, le resto. Là.
Oh!
Puis, genre, ce film-là, il parle de l'argent. Il parle, tu sais, de vendre, tu sais, un peu de pas vendre son âme, puis tu sais, du gouvernement, puis de ci, puis de ça. Mais le placement de produits là, dans ce film-là, il est ostentatoire. Là, il est tellement, tellement mal placé, il est tellement vulgaire, il est tellement dans ta fucking gueule.
Ouais. Tout ça le long déjà du film, règne la beauté
ça enlaidit, ça enlaidit chaque frame de ce film-là. Vraiment, OK, il y a eu tous les partenaires financiers. Je peux pas croire que t'as besoin de faire un placement de produit à toutes les scènes. Puis je le mentionne, OK, parce que ça aussi, c'est en ça se bat contre son thème. Tu sais, quand Avomar Partey le fait, c'est un peu drôle, c'est pas très grave, tout ça. Il y a d'autres films qui le font d'une façon un peu drôle, puis ça peut encore passer. Mais quand Denis Arcand fait ça dans un film qui se veut comme super éveillé, puis conscientisé sur l'argent, puis sur tout ça, là, t'es comme, non. Là, pour vrai, là, je passe, j'avale vraiment pas la pilule. C'est arrête-moi ça, là, les logos de discount à toutes les fois que tu vois un char, à toutes les fois, tu sais, comme, arrêtez, là.
Mais...
Ça l'enlaidit, là, à l'os, là, c'est terrible.
Mais d'un autre côté, ça te permet d'avoir Benoît Brière dans le rôle d'un sans-abri plutôt qu'un acteur qui se cherche du boulot.
Ben, c'est ça. Fait que, hein, c'est la fin de la chute. C'est la fin de la chute.
Bref.
L'atterrissage, qu'on dit.
Donc, Rémi Fréchette.
Allô?
Parlant de films intellectuels verbeux qui s'écoutent.
Ouais.
Toi puis moi, on est allé voir Action Point au cinéma.
Moi, là, chaque fois que Paul m'invite au cinéma, c'est jamais pour voir genre Revenge ou une affaire cool. Là. C'est tout le temps genre Rémi, on va voir Action Point, le dernier film de Johnny Knoxville. Let's go.
Hey, mais c'est malade, vous avez payé pour ça.
Paul a payé pour ça. Quand je suis arrivé, il y avait déjà mon billet. Fait que je pense que c'est sa façon de se faire pardonner.
Sac Paul, t'avais donc bien besoin d'amis cette soirée-là.
Wow. Non, mais j'avais vraiment. OK. J'avais vraiment envie de voir ce film-là. Puis honnêtement, j'ai pas été déçu par rapport à mes attentes, peut-être. Là. Mais tu sais. Vous allez voir l'affiche de ce film-là, puis...
L'affiche, c'est vraiment cool, ça, j'ai rien à dire contre l'affiche.
Do we have a script? Fuck no, but we have a poster.
Ouais, exactement. Non, mais on parlait d'affiche Safari avec Denis Arcand, mais c'est pratiquement la même chose, hein, une espèce d'affiche dessinée très old school, très Mad Magazine.
C'est genre Animal House, c'est genre Police Academy, c'est un gros dessin avec plein de personnages dessus, full de couleurs...
Puis honnêtement, tu sais, des fois, il n'y a rien qui fait plus de bien qu'une belle petite comédie stupide, tu sais, sans prétention. Puis c'est vraiment ce genre de film-là. Tu sais, ce film-là, au-delà de ce que c'est tellement un hommage à une période révolue, là, tu sais. Ça existe presque plus, ce genre de film-là, tu sais. Justement, là, on peut en citer, mais il me semble que dans la jeunesse, là, ça se multipliait les bonnes comédies connes. Tu sais, faire de l'humour stupide de manière intelligente, là. Mais je suis pas en train de dire que ce film-là est particulièrement intelligent, mais on dirait que ça fait partie d'une autre époque où il y avait vraiment pas de mal à sortir un simple film où des gens reçoivent des choses par la tête, là, tu sais.
Mm-hmm. Ben, ça fait genre fin 99, début 2000, genre les films avec Seth Green, là, pis genre, tu sais, c'est un film d'ado, mais là, t'es plus avec un ado, t'es avec Johnny Knoxville, qui est quand même un middle-aged man, là. Mais ouais, bon, ouais. Il s'en donne à cœur joie là-dedans, là. Mais ouais, moi, Paul, je suis pas... correct, là, tu sais. Mais c'est pas un film que... Tu sais, même si ça avait été gratis sur Netflix, je sais même pas si je l'aurais regardé, là.
Moi, je suis convaincu que ce film-là va vraiment être beaucoup écouté, justement, sur les plateformes comme Netflix.
Ouais, mais moi, je parle personnellement...
Parce que c'est le film parfait. Mais ça, c'est le film parfait, là, que genre, tu vas arriver de la job, à un moment donné, tu vas être fatigué, tu vas prendre une bière, tu es avec un ami, qu'est-ce qu'on écoute? Action Point. On écoute ça? Ben oui, là, tu sais, let's go. Puis... Je suis convaincu. Tu sais, ce film-là a fait un flop au cinéma, là, mais c'est genre des films qui sont un evergreen title sur Netflix. Là. Ça va être comme...
Ouais.
C'est sûr que le monde va tout finir par le voir.
Ben, le film a clairement été mal marketé, là, parce que ils ont moins poussé sur le fait que c'était, tu sais, ça venait de Jackass, que c'était comme... que les vrais stunts aussi, c'est dans bande-annonce, mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas poussé autant que, mettons, un Bad Grandpa, où c'était Jackass présente Bad Grandpa, où là, on tape sur le fait que tu vas avoir un peu la saveur Jackass là-dedans. Là. Mm-hmm. C'est sûr qu'avec ça, ils seraient allés chercher plus de monde, mais là, on dirait qu'ils ont essayé de se détacher un petit peu plus, puis c'était pas tant gagné. Mais tu sais, faire un synopsis court, là, en gros, on va quand même dire c'est à propos de quoi, mais c'est un grand-papa qui raconte à sa petite-fille que dans les années 70, il y avait un parc d'attractions, puis c'était un parc d'attractions où il n'y avait aucune règle, où il mettait les manèges à plein régime, où les gens faisaient boire de la bière puis être malades pas n'importe où, puis c'était juste un parc d'attractions super trash où tout peut arriver. Mm-hmm. Donc, il y avait cet endroit-là, puis ils se battaient contre les gens qui voulaient faire fermer le parc. Donc, à travers ça, c'est une excuse pour que Johnny Knoxville reçoive des coups et tombe en bas de falaise, je ne sais plus quoi encore, se fasse maltraiter par un ours. Donc, tout ça, c'est l'excuse pour avoir des cascades, dans le fond, dans le film.
Ben ouais, des
Johnny Knoxville qui vieillit, mais qui est encore capable de manger des coups dans la gueule.
Ben ouais, des ballons dans la fourche en cinérama.
Des ballons
c'est ça.
Mais tu sais, aussi, c'est que c'est basé sur, c'est basé sur un vrai parc qui existait, qui s'appelait c'est pas Action Point, mais c'était presque pareil, Action Park. Qui a fermé au bout de quelques années seulement parce qu'il y a eu genre 5 morts, puis ils sont fait poursuivre, puis il n'y avait plus d'argent, tout ça. Donc, c'est un peu inspiré de
juste 5 morts,
c'est
pas super,
c'est sérieux.
Oui, non, mais c'est vrai, c'est vraiment basé sur un vrai parc d'attractions fauché qui avait vraiment pas beaucoup de règlements. Donc, ouais, c'est aussi simple que ça. Puis honnêtement, ce genre de film-là, c'est vraiment le genre de film où quelqu'un le comparait à un film pornographique où tu as juste hâte que le scénario finisse, puis que la vraie scène commence, là. Mais c'est un peu la même chose. T'as juste hâte que le scénario aboutisse pour passer aux scènes de ils testent des nouvelles attractions, puis tout va mal, évidemment. Puis tu sais, où il y a une scène où justement Johnny Knoxville est comme on devrait faire un zoo pour les enfants. Puis là, évidemment, ben c'est juste l'occasion de le voir lui essayer de ramasser des animaux sauvages sans aucun équipement, comme un porc-épic avec ses mains, puis attraper un ours, puis un crocodile, des trucs comme ça. Fait qu'évidemment, on rit, ha ha ha, c'est drôle, tu sais, mais. Mais c'est sûr que toutes les parties scénarisées, on s'en fout un peu. Il y a quand même un peu. Mais il y a quand même une ambiance le fun. Moi honnêtement.
Ouais,
là,
mais c'est un peu ça mon problème où je trouve que Bad Grandpa marchait pour ce que c'était dans cette vibe-là, plus que celui-là. Parce que là, il essaie vraiment de construire plus une histoire autour, tandis que Bad Grandpa, c'est un peu plus construit comme Borat, où t'as les contextes narratifs qui sont un lead-up à des pranks en public. Où là, les gens qui réagissent aux pranks, c'est du vrai monde, c'est de la caméra cachée. Tandis que là, le monde qui réagisse, ben, c'est d'autres comédiens qui jouent leur rôle. Puis là, je trouve qu'on est trop dans le contexte de on fait un vrai film. Tandis que Bad Grandpa, t'as comme. On s'en calisse, là. On veut juste voir Johnny Knoxville se faire lancer à travers une vitre d'un magasin, puis glisser.
Mais Bad Grandpa, il y a quand même des scènes d'anthologie, là.
Oui, oui, mais c'est
deux, trois
c'est
scènes
ça,
dans ma tête. Ben, une en particulier, là, la scène au bord, là, de danseuse, là. Mais il y en a au moins deux autres, là, des scènes là, d'anthologie. Là. Est-ce que dans ce film-là, mettons, il y a une scène genre qui se démarre?
Il n'y a pas vraiment de stunts qui sont vraiment, vraiment impressionnants, tu sais. Justement, c'est que je trouve que le monde autour, vu que c'est des comédiens, ben ils réagissent comme des comédiens, là, comme les personnages réagiraient. Et non, t'as pas une vraie réaction publique. Ils sont comme « Holy shit, genre, le doute s'est vraiment fait mal, là, tu sais. »
Puis aussi, c'est que là, il y a pas toute la troupe de Jackass, tu sais, comme Knoxville s'en vient vieux, t'as Chris Pontius qui est là, mais il y a personne d'autre. Puis tu sais, souvent dans ces films-là, justement, c'est quasiment une espèce de concours machiste, là, tu sais, de savoir l'orgueil masculin, là, qui va être le plus fou, qui va être le plus dégueu, qui va aller le plus loin. Fait que ça faisait des affaires qui n'ont pas de bon sens, les films Jackass. Puis bon, Bad Grandpa, déjà, c'était un entre-deux, justement, comme tu le dis, Rémi, c'est un peu plus proche de la caméra cachée et tout ça. Mais celui-là, on est vraiment plus dans. C'est un peu Johnny Knoxville qui essaye de faire de lui-même un lead role, puis ça n'arrivera pas. Là, un peu comme... ça fait un peu penser comme quand Seth MacFarlane s'est payé un film, puis il voulait être dans un western, puis devenir un lead role, puis clairement, ça n'arrivera jamais. Là.
Ou la différence, mettons, de Dictator, Sacha Baron Cohen qui joue dans The Dictator versus Borat. Il y a des parallèles un peu là.
J'allais dire, il y a quand même une vibe intéressante dans le film. Puis moi, je pouvais pas m'empêcher de penser à genre, tu sais, mettons, t'as un meilleur ami, ok? Les deux voulaient devenir cinéaste. Puis t'en as un qui est quand même sérieux à propos de son rêve. Puis l'autre, à chaque fois que tu proposes une ligne ou quelque chose, là, tu sais, ton ami un peu colon fait juste te dire, ah, puis là, il se ferait genre pitcher un ballon dans la fourche. Mais genre, imagine qu'une de ces deux personnes-là, c'est devenu genre Richard Linklater. Qui fait des trucs comme Everybody Wants Some, tu sais, qui a à peu près un peu le même vibe que ça, tu sais. Puis l'autre, ben, c'est l'ami un peu colon qui a fait genre Action Point, tu sais. Ben, c'est un peu ça, tu sais, c'est comme. Ça ressemble de loin à genre Richard Linklater qui aurait aucune finesse, là, tu sais.
C'est quand même. Je sais pas, là. Tu l'avais dit en plus en sortant du cinéma, cette comparaison-là, puis j'ai repensé, puis j'étais comme. Je suis pas sûr, là.
Mais il y a comme des mouvements de caméra, puis des moments un peu carefree, où il y a pas trop de... Tu vois juste la foule un peu qui se promène, qui ont du bon temps, qui boivent une bière, puis qui sont contents d'être jeunes, tu sais, puis...
C'est comme une comédie slapstick. C'est juste qu'au lieu d'avoir un cascadeur, ben c'est le comédien qui fait ses stunts, là. Tu sais, rendu là, c'est comme... Mission Impossible, Tom Cruise, il fait ses stunts, puis c'est hot, mais parce que c'est des vrais stunts de fou. Oh, oui. Là, c'est un gars qui se fait arroser par une hose, puis qui tombe dans une glissade d'eau, là. Puis, tu sais, l'autre affaire que je veux dire aussi, là, c'est que il y a comme... Le film, clairement, là, tu sais, il dure genre 1h30, ben flush, là, tu sais. Mais clairement, là, au début, le film durait 1h15, puis ils ont fait comme, hey, non, il nous manque du temps, on peut pas le sortir en salle, qu'est-ce qu'on fait? Hey, on va tourner une scène comme si tout ça c'était un flashback, puis on va tourner, là, en une journée, on va canner des scènes avec Johnny Knoxville, maquillé en vieux bonhomme, qui raconte qu'est-ce qui s'est passé. Puis c'est ça, parce que pour vrai, là, les scènes dans le présent, là, avec le vieux, c'est juste, c'est mal shooté, là, c'est même pas shooté comme de la télé, là, c'est super laid. Il est comme, le maquillage est super cheap, là, et c'est pas le bad grandpa du film d'avant, là, il est vraiment pas maquillé comme l'autre dude, puis c'est quasiment plus cheap, là, puis la façon qu'il est éclairé, c'est super mal fait, puis ça sert à rien au film, là, tu sais, on pourrait juste être avec lui qui ouvre un parc, puis qui déconne avec ses amis, puis on en aurait assez, mais là, ils ont construit le film autour de ça, du flashback, puis ça sert à rien, là, dans le film, là, c'est clairement pour boucher du temps, là, qui manquait, là.
D'ailleurs,
rendu là, j'aurais quasiment aimé mieux avoir des bloopers dans le film. Là,
ouais, ben c'est ça, c'est exactement le genre de film où. Tu sais, les Jackass, dans le fond, c'est pratiquement ça, tu sais, les films puis la série, là, le show de télé, là, c'est quasiment des bloopers d'un film normal, tu sais.
Ouais.
C'est là que. Parce que c'était tellement pur, tu sais. C'est ça qui était le fun aussi, c'était à quel point c'était assumé que on veut rien d'autre que genre se faire mal pour votre plaisir, puis il y avait quelque chose de noble là-dedans quand même, tu sais. Donc écoute, Action Point, c'est pas génial, surtout que le concept de base, c'est le lieu était vraiment un lieu propice, c'est vraiment une idée de base propice à du génie, tu sais.
Ouais,
ça aurait pu virer en vraiment comme une bonne idée, tu sais. Puis un peu comme, tu sais, quand justement t'as genre Jacques Tati qui pour tel film choisit, ok, je vais faire une expo de voiture, pour tel autre film je suis en vacances, tu sais, c'est
ouais,
comme
ou moi ça me fait penser un peu à de Party avec Peter Sellers, tu sais, c'est comme setup pour faire de la comédie qui peut aller là vraiment dans tous les sens, mais être bien faite, puis
mais je me suis pas fait chier, tu sais, c'est sûr, là, c'est 1h30, mais on dirait que le film il fait le strict minimum avec ce qu'il y a là, tu sais. C'est pas il aurait pu aller plus loin, avoir des, tu sais, les stunts les plus fucked up sont dans bande annonce pas mal en intégrale, là, espèce de catapulte là qui est dans bande annonce, c'est comme un truc un peu plus ambitieux, mais hein, là dans bande annonce intégrale, il y a pas d'autres angles ou d'autres réactions, c'est ça dans le film, là, c'est juste que il l'installe dans le film, puis après ça tu le vois qui se relève, puis il est tout décrisse. Mais tu sais, le stun qui est dans bande-annonce, là. Je sais pas, là, j'étais comme... Ben, c'est ça, là, c'est... Tu sais, je regrette un peu de pas fumer un gros bat avant d'y aller, mettons, là.
Mais, tu sais, un peu dans la même lignée, parce que, tu sais, je suis peut-être un petit peu moins clientèle pour, mais en même temps, une bonne comédie, j'aimerais rire, c'est comme tout le monde, là, tu sais, une bonne comédie con, ça peut être vraiment bien, puis je n'avais parlé hors d'onde, mais je pense pas que je n'avais parlé au podcast, mais je veux juste faire un shout-out à un film qui est vraiment, franchement, vraiment drôle, c'est Game Night. De John Francis Daly, Goldstein, là, avec il y a Rachel McAdams là-dedans, Jason Bateman. Sérieusement, là, dans le mode comédie, un peu fast-paced à l'américaine, ben, il est vraiment bien. Puis il y a une scène, parce que j'ai repensé à cause de la scène d'anthologie, puis c'est parce que dans Game Night, il y a une scène avec un chien blanc puis du sang, là. C'est la seule affaire que je vais dire, là. Mais genre, c'est tellement, tellement, tellement drôle, là. Fait que, ouais, je fais juste un petit shout-out à Game Night, si jamais. Comme quoi, hein, même moi, je suis capable d'avoir du fun, puis je suis capable de... Hein?
Même moi, je suis capable. T'sais, entre un petit Denis Arcand, puis...
Je suis cool, là.
C'est qui le film de convaincre, c'est nous autres, ouais, c'est toi-même, là, c'est
ça. Hey, guys, anyone?
Bueller.
C'est comme quand Godard essaie de te convaincre, là, tu sais, qu'il est capable de faire de l'humour, là.
Ouais, c'est ça.
Ben écoutez, les amis, merci beaucoup. C'était notre point de vue cette semaine.
Ben oui.
On va aller écouter.
J'aurais même pas eu le temps de parler de Jeepers Creepers 3.
Ah, c'est dommage.
C'est vraiment dommage.
Si vous voulez que je parle de Jeepers Creepers 3 au prochain podcast, écrivez un commentaire sous like, Facebook, and share and stuff.
T'es moi une review Harmon White, là, genre Jeepers Creepers 3 est meilleur que ou est pire que, mettons.
Hey, mais tu sais, tu sens la salle parce que, je sais pas si vous saviez, mais le gars qui avait les Jeepers Creepers a été arrêté pour pédophilie dans les années 90, là.
Ouais.
Et genre, touché un petit acteur qui avait... Puis tu sais, ça a plus sorti... En fait, le film, le 3, il a été repoussé la sortie parce que, à cause de ça, là, il y a eu plein de protestations, puis ça a pas pu sortir au cinéma, ça a été vraiment... Il y a eu vraiment du trouble, puis pour vrai, tu sais, je sais quel film, puis... Parce que je suis vraiment, tu sais, fan des franchises de films d'horreur. Puis même que je pourrais en parler, mais j'ai regardé le dernier Texas Chainsaw qui est le 8e, qui vient de popper sur Netflix.
Leatherface?
Leatherface. Ouais. Puis, tu sais, en tout cas, je les ai regardés un peu pour la forme, mais Jeepers Creepers, je le regardais, puis je me sentais. J'avais les creeps, comme on dit, hein? Parce que tu penses au doute qu'il l'a fait, c'est comme, oh, il est vraiment dégueulasse. Puis là, je me sens sale de regarder ça, puis d'encourager son esti film, là, mais. Curiosité morbide, là. Ouais, bon. mais écoute, ben, c'est Jeepers Creepers 3, Chris. Qu'est-ce que tu veux que je dise, là?
Bon, c'est
quand
bon.
Même. Si t'as pas vu les deux premiers, je sais pas pourquoi t'irais regarder Jeepers Creepers 3, là. Tu sais, si t'as vu les deux premiers, tu vas faire, bon, on va regarder le 3 pour la forme, là.
Ah, mais d'ailleurs, pendant qu'on est sur le sujet, Rémi, j'imagine que t'as vu la bande-annonce du nouveau Halloween produit par Blumhouse.
Oui.
Qu'est-ce que t'en penses, Hot or Not?
Ben. L'affaire, c'est que Halloween, pour vrai, on pourrait partir sur un gros truc de franchise.
Ouais, là,
j'aurais parlé
ils ont
aussi
renié,
de...
C'est ça, c'est quelle storyline ils renient,
j'aurais parlé de Texas Chainsaw aussi, tu sais, puis c'est comme, c'est des... Moi, j'aime ça, les films à franchise, c'est pour ça que j'embarque là-dedans, mais tu sais, Halloween, l'affaire, pour ceux qui le savent pas, c'est que c'est la suite du premier. Mais le premier, il y a eu déjà une première suite, qui était Halloween 2, qui est la suite directe. Après ça, ils ont cassé la série, ils ont fait le 3, où il n'y avait plus Michael Myers, ils sont repartis à zéro. Là, en fait, oh, le monde, il aime ça. Ben, on va repartir avec le 4, qui est la suite du premier. Parce que le 2, en fait, Michael Myers et Dr. Loomis meurent.
Spoilers.
Spoilers. Le spoilers vieux de 40 ans, là. Ben, en tout cas, fait que là, tu fais 1 à 4. Là, 4, 5, 6, ça suit. Là, au 6, ils font, ah non, ça marche plus, on repart. OK, fait qu'on fait le 7. Le 7, c'est la suite directe du premier. OK, parfait. Fait qu'on repart. 1, 7, 8, 8, de la merde. OK, parfait, ça marche plus, on repart à zéro. Rob Zombie, repart-nous ça. OK, Rob Zombie fait 1 et 2, des nouveaux films. Ah, oh, ça marche pas. OK, c'est bon. Fait que là, on fait un nouveau film qui est la suite du premier. C'est la troisième fois qui font une suite au premier, qui repartent comme si les autres n'avaient pas existé. Puis c'est comme le cinquième reboot de la franchise. C'est pas la pire franchise de films d'horreur,
ouais. Mais
je suis quand même excité, esti.
Ben, c'est David Gordon Green qui réalise quand même. Ça...
Ouais, puis l'autre truc, c'est que c'est Jason Blum qui est comme... Mm-hmm. Qui est conscient de ce que les gens veulent voir dans le cinéma d'horreur. Fait que même si c'est du fan service, au moins ça sera pas de la crise de merde de... Sérieux, là, ça, cette franchise-là, c'est tellement chaotique, là. Ça va vraiment pas, puis... Là, ils nous donnent ce qu'on veut. Là. Jamie Lee Curtis avec un gun. Michael Myers qui a de l'air bien ben menaçant puis qui a de l'air bien mystérieux. Il n'y a pas trop de backstory. Ça a l'air d'être ce qu'on demandait. Mais écoute, je vais être là. C'est la franchise est... Puis l'autre affaire, c'est James Rolfe, le Angry Video Game Nerd, qui a fait une vidéo là-dessus. Puis ce qui relève, qui est vraiment cool, c'est que Halloween, ils ont arrêté de les sortir à l'automne. Genre après le 4 ou le 5, là. Habituellement, tu sors un film d'Halloween à l'Halloween, puis ils ont arrêté, il est sorti en été. Genre parce qu'ils voulaient des summer movies, puis là, Halloween, il sort à l'Halloween. C'est comme, j'ai l'impression qu'il va avoir un certain succès au moins autour de ça, tu sais. Parce que s'il n'y a pas de meilleure période pour garder un Halloween qu'à l'Halloween, là. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire sur le film. Moi, j'ai vraiment hâte, là, ça va être cool.
Merci pour cette révélation, Rémi.
Ben non, mais... non, mais tu sais, Chris, les studios, ils sortaient en été. Je sais que ça a l'air évident, mais ça a l'air que c'était pas assez évident pour les distributeurs, là.
Hey, parlant de franchise compliquée, là, aujourd'hui, pour le fun, j'étais un peu en train de lire sur comme un peu le studio DC, puis le DC Universe. Et ouais. en ce moment... Il y a 6 films en préparation qui traitent du Joker. Parce que t'as Suicide Squad 2, t'as le film solo sur Jared Leto, parce qu'il va avoir son propre film à lui, là, sur son Joker. T'as le film Batman de Matt Reeves avec Joaquin Phoenix qui va jouer le Joker. Et là, ils sont en train de courtiser Robert De Niro pour être un des autres rôles. Qui est produit par Scorsese, d'ailleurs, ce film-là. T'as également un film qui va être uniquement sur la relation entre Harley Quinn et le Joker, mais les deux acteurs, donc Jared Leto et Margot Robbie. Et t'en as un autre, là, genre un truc de super vilain. Là. Fait que là, ça se peut que ce soit un autre acteur pour celui-là. Fait que tu sais, comme ça se peut qu'on ait comme plusieurs acteurs qui incarnent le même personnage.
En même temps.
Mais ça, à la limite, je trouve ça quand même excitant. Parce que tu sais, comme les comics aussi, c'est quand même ça, c'est d'avoir tout le temps des visions différentes. Puis de proposer, tu sais, de laisser vraiment le champ libre au créateur, tu sais. Puis si quelqu'un veut faire un Batman vieux ou un Batman jeune ou, tu sais, ou un Spider-Man.
Ouais, Ouais, mais là, ils sont comme en mode, là, sont en mode panique, on sait plus quoi faire, là, parce que ils ont tellement chié back-à-back tous les films, ouais. Là, tu sais. Ouais. Après l'échec lamentable, là, de Justice League, c'est comme, qu'est-ce qu'on va faire? On a des figures qui sont plus importantes que Jésus, esti, en 2018, puis on sait même pas comment faire, genre, amener le monde au cinéma pour les voir,
ouais,
là.
Ouais,
vraiment, c'est vraiment pathétique, là. Fait qu'ils sont juste comme, on va tout faire, et maintenant on va le pogner.
Ben, c'est pas plus mal. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Ouais. J'espère qu'ils vont laisser plus le champ libre aux créateurs, mais bon, je pense que c'est un vœu pieux en 2018. Donc, écoutez, c'était notre point de vue. On va aller écouter la bande-annonce d'un documentaire québécois qui a l'air pas mal cool, qui sort bientôt, qui s'appelle Design Canada, sur un peu l'évolution des logos puis des designs dans les années 60-70 qui ont contribué un peu à forger
l'identité canadienne. Vous pouvez voir le chute de l'Empire américain, vous allez voir l'évolution des logos dedans.
Oh, placement de produit. bien joué, Pascal. Donc, ouais. Documentaire de Greg Durrell. Mon nom est Paul Landreau et j'étais avec mes collègues.
Rémi Fréchette.
Et Pascal Plante.
That era of things that started in the mid-60s and on was really the beginning of what we think of Canada.
The work and the symbols of those times helped define an attitude of new possibilities, not tied to the past, but looking towards the future.
For the CBC, I designed a Sea for Canada, broadcasting out to the world.
The beaver has roots, real ones.
Well, the D is like a flagpole. How could it miss?
It spoke for itself. It demanded space around it.
It took this dimension and it made it similar to this dimension. This is why I love it.
Do you think we should have a distinctive Canadian flag?
I certainly think we should.
The search for a new Canadian identity really started in the 1950s.
As we began to shake off all the trappings of yesterday, there was freedom that came with it.
Expo put design and architecture onto the radar for many Canadians.
The Indigenous artists of that era were quite forthright in saying we will not be presented as propaganda.
The set of social conditions that were potentially going to tear apart the country, it's interesting that language and design were the means by which that resolution could take place.
If design helped, Canada find its place. What more could I wish for?
So did Canadians design these symbols, or did these symbols, in fact, design Canada?